Bonjour à vous, amis des fées qui choisissez de nous écouter. Bonjour et bienvenue dans notre émission Il était une fois en Cornouailles sur Radio Évasion. Je suis Christophe Méchin, président de la Maison des Contes et Légendes de Cornouailles, et pendant les 26 prochaines minutes, je vais vous emmener au pays où l'on n'arrive jamais, celui des contes et des légendes de la Cornouaille bretonne historique. Cette semaine, nous allons poursuivre notre promenade sous les arbres des forêts de Cornouailles afin d'y découvrir ce qui s'y passe. Pour cela, nous nous rendrons d'abord dans les bois du Cranou, non loin d'où nous sommes, puis à Huelgouat, la plus belle des forêts cornouaillaises, et enfin dans les montagnes noires au sud. Ensuite, comme d'habitude, dans une seconde partie, je raconterai une histoire improvisée grâce aux éléments que l'un ou l'une d'entre vous a envoyés à notre association via notre page Facebook. Lorsque Saint Léyé arriva sur les hauteurs du Cranou, au sud-est de Plougastel, le seigneur de ce pays, si pauvre qu'il en était nu, lui fit bon accueil, et, n'ayant pas de bois, lui fournit des mottes pour édifier son ermitage. Dès que ce dernier fut érigé, une forêt magnifique poussa tout autour et le saint la bénit en disant que le bois ne manquerait plus jamais dans la forêt du Cranou. Selon une autre tradition du pays, il existait autrefois, à Landévennec, au village nommé aujourd'hui Sescroise, un forgeron dont la femme était extrêmement pieuse. Cette femme se rendait régulièrement tous les matins à l'abbaye pour y entendre la messe, ce qui déplaisait à son mari. Celui-ci lui en fit des reproches, prétendant que ce n'était pas le sentiment religieux qui l'attirait à l'abbaye, mais les moines. La femme se défendit de cette inculpation outrageante et dit à son mari qu'il devait être aussi sûr de son innocence qu'elle était certaine de pouvoir tenir entre ses mains le soc incandescent de charrue qu'il forgeait en ce moment. « Eh bien, porte-le à Landévennec !» lui répondit son mari en jetant sur le sol le soc incandescent. La digne femme le prit dans les mains et le porta au bourg, distant d'environ une demi-lieue de la forge. Ceci ayant été considéré par les habitants comme un miracle, le soc fut placé entre deux saints dans l'église de l'abbaye, où il resta jusqu'à la Révolution. Quelque temps après, la femme du forgeron accoucha de 7 garçons. Le mari les enleva, les mit tous les 7 dans une corbeille, les porta à l'anse de Penforne et les abandonna à la merci des flots dans la rade de Brest. La corbeille fut entraînée vers le fou dont les habitants voulurent recueillir les enfants, mais ceux-ci, tout en témoignant leur reconnaissance, dirent qu'ils ne pouvaient pas s'arrêter en cet endroit et qu'ils devaient aller plus loin. Puis ils prédirent que le bois du Cranou, ou Crano, qui s'édentait jusqu'à la ville, fournirait éternellement les plus beaux bois d'œuvre de tout le pays. Dirigeons-nous maintenant vers l'est où se trouve la si belle forêt de Huelgouat. Dans cette forêt se trouve un ancien oppidum gaulois appelé le camp d'Artus, ou camp du roi Arthur, où le célèbre monarque aurait résidé, dit-on. C'est un lieu qui passait pour être hanté dans la population locale. Il valait mieux ne pas s'y aventurer la nuit, car les démons qui le gardaient apparaissaient aux imprudents sous la forme de 2 feux follets et interdisaient l'accès à l'enceinte. On y entendait parfois aussi des hurlements. Les êtres surnaturels qui résidaient là se disputaient les immenses trésors cachés dans le sol. Dans la baie de Douarnenez, la cité maudite Is s'est engloutie jusqu'au jour du jugement. Mais en Bretagne, l'obsédance des légendes marines vous poursuit à travers les terres. Aussi, selon Bernard de Parade, dans son livre sur les légendes de l'Argouat, au pied de la grande route qui dévale du Huelgouat vers Carhaix, un gouffre a écarté les rochers moussus. L'eau y mène grand bruit et prend une teinte de sang. C'est là que la tradition commune place l'endroit où Dahu, la princesse de la ville, faisait jeter ses amants d'une nuit. Elle avait, dit-on, sur la butte le surplombant, son château, le Castel Guibel. Ainsi, au matin, il lui était fort simple de défenestrer ses amants de belle façon. Et les gens du pays vous diront maintes fois avoir entendu dans le gouffre la plainte de ses amants. De vieilles gens rapporteront un autre aspect de la légende. De longs souterrains partaient de la ville d'Is et débouchaient quelquefois à plus de 30 lieues au centre de la haute Cornouaille. La mer, après avoir submergé la cité maudite, pénétra dans ses souterrains. L'un d'eux aboutit au gouffre du Huelgouat, et le bruit que l'on y entend n'est pas seulement produit par la rivière, mais aussi par les vagues qui s'en viennent jusque-là. Parfois, pendant les nuits claires, quand le torrent apaise un peu son vacarme, du gouffre monte une chanson. C'est Dahu changé en sirène qui chante. Des gens dignes de foi affirment l'avoir vu dans les temps anciens. Long fantôme blanc, ses cheveux d'or dénoués, elle tend des bras de supplication. Elle voudrait échapper à la mer qui la tient, mais elle est condamnée à demeurer là, jusqu'à ce qu'une fille aussi jolie et aussi maudite qu'elle prenne sa place. Toujours à Belgoat, les ruines du vieux château de Castelguibel, à l'endroit qui surplombe le gouffre et est appelé aujourd'hui Belvédère, se voyaient encore à la fin du XIXe siècle. Elles aussi avaient leur légende. Toutes les nuits, aux environs de minuit, une ravissante jeune fille apparaissait sur les créneaux. Des jeunes gens voulaient la libérer, mais dès qu'ils s'en approchaient, un hideux serpent s'enroulait trois fois autour du cou de la belle princesse. Trois fois, l'affreuse bête les menaçait de son venin. Celui qui résistait à ce spectacle sans crier pouvait alors délivrer la jeune vierge. Et, pour le remercier, cette dernière lui confiait un trésor valant à lui seul le prix de la Bretagne tout entière. Un peu plus bas, dans la rivière d'Argent, se trouve la Mare aux Fées. C'est le lieu de réunion de ces dames des bois à Huelguat. La reine des fées occupe le plus haut rocher et les petites fées se placent sur les autres pierres. Une fois l'an, la nuit de la Saint-Sylvestre, elles tiennent séance plénière et celles qui ont désobéi à la règle des fées sont alors jugées. C'est ainsi qu'une jeune fée accusée d'avoir parlé aux garçons du pays fut jetée dans la mare en punition de ce forfait. La fée est restée au fond de l'eau claire, mais ceux qui cherchent à l'apercevoir sont irrésistiblement attirés vers la mare et se noient. Les fées de Huelguat sont dans la bonne tradition. Comme toutes leurs sœurs, elles se tiennent au bord de l'eau et se distraient en peignant à longueur de nuit leurs longs cheveux blonds avec un peigne d'or. Aux heures nocturnes, leur beauté est incomparable, mais de jour, ce ne sont que de vieilles femmes aux cheveux d'un blanc sale. Des groires, des boudiques ou des korriganes. La Basse-Bretagne ne leur concède pas la bonté. Ce sont des jeteuses de sorts, amies des sorcières, et de toutes les mystérieuses voleuses de beurre qui sévissent toujours dans la campagne de l'Argouette. Une autre légende stipule d'ailleurs que ce serait elle qui serait à l'origine de la rivière d'Argent. Si à Huelguat la forêt du Faou troque son nom à partir du chaos du moulin pour celui de rivière d'Argent, l'origine est à rechercher simplement dans ce plomb argentifère qui s'extrayait encore au siècle dernier à Huelguat et à Poulaouen. Un soir, un homme revenait de la forêt. Il longeait le ruisseau lorsqu'il arriva à un endroit où des femmes lavaient à grands coups de battoir. C'étaient des lavandières de la nuit. Jusqu'à la venue d'un chrétien sauveur, il faut laver notre linceul sous la neige et le vent, chantaient les funèbres laveuses en entourant l'homme. Ce dernier pensa sa dernière heure venue lorsque la plus vieille femme lui dit « Aide-moi à essorer ce linceul et tu seras riche pour le restant de tes jours. » L'homme savait que quiconque rencontrait des lavandières de nuit devait avoir bien soin de tordre le drap dans le même sens qu'elle, sous peine d'être entortillé par le linceul et emmené tout vivant en enfer. La groire vit bientôt qu'elle avait affaire à un homme averti et, fidèle à sa parole, lui remplit les poches de pierres brillantes d'argent. Rentré à Huelguat, l'homme montra sa fortune et les mineurs accoururent. Huelguat est vraiment une forêt légendaire. Saint-Pierre et le bon Dieu y descendirent un jour, l'un sous les apparences d'un bûcheron, l'autre sous celle d'un cultivateur. Ils étaient accompagnés d'une truie, près de mettre bas, avec laquelle ils se dirigèrent vers une chaumière habitée par une vieille boulangère qui n'avait pas été favorisée par la fortune. Elle était assise sur le pas de sa porte quand Saint-Pierre et le bon Dieu l'abordèrent en lui disant « Voici une truie sur le point d'être mère. Nous vous en faisons cadeau à une condition. C'est que vous nous réserviez la moitié des petits qu'elle aura fait. » J'accepte, dit la femme qui n'avait jamais eu l'occasion d'avoir une truie et que cette offre comblait de joie. Nous reviendrons dans une semaine, dirent les voyageurs. Vous nous mettrez de côté notre lot de porcelets. La pauvre femme rayonna de plaisir. Elle bâtit bien vite avec du genêt et des mottes une soue pour sa truie. Elle l'y coucha sur une bonne litière et la régala de pommes de terre et de trognons de choux noyés dans une eau de vaisselle onctueuse. Le lendemain, la truie mit bas 8 petits. « Bon, se dit la vieille, les voyageurs ne sont pas là, ils ne savent donc pas combien ma truie a eu de petits. Au lieu de 8, je ne leur en avouerai que 4, ce qui portera ma part à 6. » Son four était vide. Elle y cacha 4 gorées. Le matin du 8e jour, nos deux voyageurs se présentèrent. « Eh bien, ma bonne dame, combien la truie a-t-elle eu de petits ?» demanda l'un d'eux. « Quatre, mentit effrontément la femme. Et ceci, dirent le bon Dieu et Saint-Pierre, en se dirigeant vers le four, vous les oubliez donc ? La femme se mit à trembler. Pardonnez-moi, s'écria-t-elle, je ne recommencerai plus. Mais sur un geste du bon Dieu, Saint-Pierre avait ouvert le four et les quatre porcelets avaient pris leur trot dans la direction du bois voisin. Seulement, comme ils s'étaient roulés dans la cendre chaude, leur soie avait roussi. Et c'est depuis ce temps que les sangliers ont le poil brun en forêt de Huelguat. Il y a tellement de légendes à Huelguat que depuis les années 1980, des théories postulent qu'il s'agirait en fait d'un morceau de la forêt mythique de Brocéliande. Comme on y trouve un endroit appelé camp du roi Arthur, puis un autre censé être sa tombe, rien n'interdit de penser que Brocéliande pouvait s'étendre de Pimpon à Huelguat, près de Carré. Les textes anciens évoquent la bataille de Carroèse, forme médiévale de Carré, capitale du roi Léodagan, où l'union d'Arthur et de Guenièvre aurait été bénie par l'évêque local. Les troupes du roi Arthur y affrontèrent leurs ennemis sous l'égide de Merlin et de sa bannière crachant des flammes. À l'issue de cette bataille, Merlin rejoignit directement la forêt de Brocéliande, qui semble donc être toute proche. À deux pas de Carré se trouve d'ailleurs toujours un village sur la commune de Paul, dont le nom s'écrit Brécilien, mais qui auparavant s'orthographiait Brécilien avec un C, ce qui signifie Brocéliande, avec une ancienne source sacrée comparable à celle de Barenton et qui alimentait l'aqueduc gallo-romain acheminant l'eau vers Carré. Mais Huelguat n'est pas la seule forêt magique en Cornouailles historique. On trouve également des futaies merveilleuses dans les montagnes noires, où par exemple, au commencement et à la fin de leur course, les loups-garous devaient se plonger dans une fontaine pour se transformer puis redevenir humains. Il y a aussi, selon la légende, des événements bien étranges qui se dérouleraient la nuit par-dessus les bois autour de Châteauneuf-du-Fou. Les armées du roi Arthur parcourraient les montagnes noires environnantes de cette ville du Finistère. Aux premières lueurs du jour, des milliers de soldats fantômes rangés en bataille chemineraient pour défendre le souverain anglais. Si vous voyez par une nuit noire des armées fabuleuses du roi Arthur cheminer sur la crête des montagnes toutes proches, c'est qu'une guerre se prépare. De nombreux témoins les auraient d'ailleurs vues en 1914 et en 1939. Le problème, c'est qu'elles auraient aussi été vues récemment. Mais la plus terrible des créatures des montagnes noires est sans conteste la Sentirine, dont François-Marie Luzel a raconté la légende dans le texte qui suit. Un vieux gentilhomme breton vivait tranquillement dans son château avec ses trois filles. Sa femme était morte et il n'avait pas de fils. Voilà qu'un jour, une lettre lui arrive tout à coup de la part de son roi qui lui dit d'envoyer son fils aîné pour le servir ou de venir lui-même s'il n'a pas de fils en état de porter les armes. Ni une ni deux, la plus jeune de ses trois filles s'habille en homme, monte à cheval et se rend à la cour où elle se présente comme le fils aîné du vieux seigneur. Le roi, charmé par sa bonne mine, la nomme capitaine tout de suite et lui donne une compagnie. On l'appela le capitaine Lixure. La reine le remarque lors d'une revue et demande au roi de lui donner pour page. Le roi y consent, et à partir de ce moment, le beau capitaine Lixure dut suivre partout la reine. Celle-ci était amoureuse de son page, mais à toutes ses œillades, à toutes ses avances, le page resta insensible, si bien qu'elle en fut profondément blessée, et jura de se venger de l'indifférence qu'il lui témoignait. Elle l'envoya d'abord pour tuer un sanglier, un animal très redoutable, qui était dans un bois voisin. Une vieille femme, une fée, vint en aide au capitaine Lixure et lui enseigna comment il devait s'y prendre pour combattre le sanglier. Il en vint alors facilement à bout. La reine l'envoya ensuite s'emparer d'une licorne, animal plus terrible encore et qui transperçait 9 troncs de chêne de rang avec sa corne unique. Mais grâce au secours de la fée, il prit aussi la licorne et lui coupa sa corne. Il reçut enfin l'ordre, alors, de prendre la Sentirine et de l'amener captive à la cour sous peine de mort. La Sentirine habitait une caverne. C'était une moitié de satyre féminin avec des dents longues comme des rasoirs, qui habitait dans un bois, et son haleine et son regard donnaient la mort à une grande distance. La fée vint encore à son secours et il prit la Sentirine, lui passa une corde au cou et l'amena à la cour, douce comme un agneau, au grand étonnement de tout le monde. Chemin faisant, ils rencontrèrent le convoi d'un enfant qu'on portait en terre. Tout le monde pleurait à l'exception du bedeau qui chantait devant le cercueil. La Sentirine se mit à rire. Plus loin, ils passèrent dans un village où l'on était occupé à pendre un brigand, et tous les assistants étaient contents et joyeux d'être délivrés d'un homme si redoutable. La centurine, elle, se mit à pleurer. Plus loin encore, en passant au bord de la mer, ils virent un navire en perdition. Tout le monde sur le rivage était dans la désolation. La centurine, elle, ria. Enfin, quand ils entrèrent dans la cour du palais du roi, tout le monde était aux fenêtres pour les voir. La centurine leva la tête et, apercevant la reine à un balcon avec deux suivantes, elle rit encore. La centurine ne pouvait être prise et domptée que par une jeune fille et elle disait la vérité à chacun. Le roi et la reine voulurent l'entendre parler et dire des vérités. Le capitaine Lixur l'amena au milieu de la cour du palais. Le roi était à un balcon avec ses ministres et ses généraux. La reine et ses deux suivantes favorites étaient à un autre balcon, et les valets et autres domestiques étaient en bas dans la cour. Le capitaine Lixur commença d'interroger la centurine et lui demanda d'abord pourquoi elle avait ri, lorsqu'en venant à la cour, ils avaient rencontré le convoi d'un enfant que l'on portait en terre et où tout le monde était triste et pleurait. « Je n'ai pu m'empêcher de rire, répondit-elle, en voyant le vrai père, le bedeau, qui chantait devant et celui qui n'était pour rien dans la naissance de l'enfant et qui s'en croyait pourtant le père, qui pleurait par derrière. » Tout le monde rit à cette réponse. Le capitaine Lixur reprit. « Et un peu plus loin, dans le village où l'on pendait un brigand, quand nous passâmes, pourquoi vous êtes-vous mis à pleurer tandis que tout le monde était content et joyeux ?» La centurine reprit. « Parce que ce brigand mourait en état de péché mortel et que je voyais sur la potence un démon qui guettait son âme pour l'emporter en enfer. » « Et en voyant un navire en perdition, pourquoi avez-vous ri pendant que tout le monde pleurait ?» demanda encore le capitaine Lixur. « Parce que, répondit la centurine, tous ceux qui étaient sur ce navire mouraient en état de grâce et que je voyais au-dessus de chacun d'eux un ange qui lui tendait les bras pour l'emmener au paradis. » Le roi prit alors la parole et, s'adressant à la centurine, « Et pourquoi avez-vous ri aussi, centurine ?» en regardant la reine à son balcon quand vous êtes entrée dans la cour du palais ?» Et la centurine répondit. « Je dirai la vérité jusqu'au bout, tant pis pour ceux qui s'en fâcheront. Si j'ai ri, sire, en voyant la reine à son balcon, c'est parce que vous croyez tous que ces deux suivantes qui ne la quittent jamais sont des femmes. Eh bien, moi, je sais que ce sont des hommes. » Et voilà tout le monde étonné. Le roi furieux et la reine et ses suivantes toutes troublées. La centurine reprit. « J'ai encore une vérité à dire. » C'est que vous croyez tous que le capitaine Lixur qui m'a prise et amenée ici est un homme, et moi je vous assure que c'est une jeune fille. Tout cela sera vérifié sur le champ, s'écria le roi. Et l'on fit venir des médecins qui visitèrent d'abord les deux suivantes de la reine, et comme c'étaient des hommes, ils furent trouvés hommes. Puis ils visitèrent le capitaine Lixur, et comme c'était une fille, elle fut aussi trouvée fille. Alors le roi furieux fit chauffer un four, et on y jeta la reine et ses deux amants. Puis il épousa le capitaine Lixur.
Le troubadour a conduit ses rêves au creux de l'antique vallée où tous les rois et les reines cette nuit se sont rassemblés à l'ombre d'un château hanté. L'enfer inonde de lumière leurs oriflammes et leurs bannières. C'est la balade des preux chevaliers, c'est la balade des preux d'autrefois. Et voici le cortège des reines, et voici le cortège des rois. Les dames aux longues traînes, filles et bergères des bois. C'est la balade des temps passés, la ronde des amours d'autrefois. Ce chevalier sur un blanc destrier, ce preux grand vainqueur du tournoi, à sa douce et belle reine a promis son cœur et sa foi par une chaude nuit d'été. L'enfer inonde de lumière son oriflamme et sa bannière. C'est la balade des preux chevaliers, c'est la balade des preux d'autrefois. et voici le cortège des reines, et voici le cortège des rois. Les dames aux longues traînes, filles et bergères des bois. C'est la balade des temps passés, la ronde des amours d'autrefois. Ce joli page tout de blanc vêtu, chéri des dames de la cour, avant que le jour ne vienne, dansera le menuet d'amour avec Morgane la fée. L'enfer, une onde de lumière, son bel amour et sa prière. C'est la balade des preux chevaliers, c'est la balade des preux d'autrefois. Et voici le cortège des reines, et voici le cortège des rois. Les dames aux longues traînes, filles et bergères des bois. C'est la balade des temps passés, la ronde des amours d'autrefois. Le troubadour a perdu ses rêves à l'aurore en sa clarté, quand tous les rois et les reines au matin se sont retirés. L'enfer inonde notre terre de leurs chansons, de leur lumière. C'est la balade des preux chevaliers, c'est la balade des preux d'autrefois. Et voici le cortège des reines, et voici le cortège des rois. Les dames aux longues traînes, filles et bergères des bois. C'est la balade des temps passés, la ronde des amours d'autrefois.
Merci d'être resté avec nous. Aujourd'hui, l'histoire que je vais vous raconter a été créée à partir des éléments envoyés par Loïc sur notre page Facebook. Et ces éléments étaient un prince, un trésor, une forêt et une épée. Un jour, un prince eut dans l'idée de chercher un trésor pour se payer un royaume. Étant le fils cadet, il ne pouvait pas compter sur l'héritage, il fallait donc qu'il se débrouille tout seul. Il eut beau demander à son entourage, personne n'avait jamais entendu parler d'un trésor dans les environs. Mais peut-être que le vieux de la bibliothèque du château, lui, saurait. Le château avait une bibliothèque. Première nouvelle pour le prince, mais il décida de s'y rendre plus tôt. Un serviteur l'emmena dans une des tours où il n'avait jamais mis les pieds auparavant, puis frappa à une petite porte en bois. « Entrez !» répondit une voix chevrotante depuis l'intérieur. Le serviteur s'effaça et laissa le prince pénétrer dans la pièce. Quelle ne fut pas la surprise de ce dernier de découvrir des étagères remplies de vieux livres et de parchemins qui montaient jusqu'au plafond de la tour, éclairées par des fenêtres placées suffisamment judicieusement pour ne pas manquer de luminosité quel que soit l'endroit de la pièce où l'on se trouvait. Un vieil homme voûté était assis sur une table examinant un livre qui semblait être aussi ancien que lui. Il leva le nez à l'entrée du prince.
« Tiens, tiens, dit-il. Le jeune prince ici, c'est une première si ma mémoire est bonne. Que puis-je pour vous, votre Altesse ? »
Je souhaiterais trouver un trésor pour m'en emparer et pouvoir m'acheter un royaume, puisque je ne suis pas destiné à monter sur le trône.
Voyez-vous ça ? Le seul trésor qui se trouve dans le coin est celui du roi Arthur, dans la forêt de Helgoat où se trouve son tombeau. Mais il est protégé par un maléfice dont il vous faudra venir à bout.
« Je ne pense pas manquer de courage, » répondit le prince.
« C'est que le courage ne fait pas tout, mon prince. Ici, il vous faudra aussi faire preuve d'intelligence. »«
Je crois que j'en ai autant qu'un autre, mais sans doute moins que vous. Peut-être pourriez-vous m'aider. »
Le vieillard sourit. Visiblement, il était satisfait de la réponse du prince.
« Le maléfice qui protège le trésor aspire votre jeunesse au fur et à mesure que vous vous approchez de lui. » En outre, il est gardé par un chevalier d'argile qu'il vous faut vaincre au moyen d'une épée à deux mains, plantée dans la terre juste devant lui. Le problème est que vous êtes si vieux quand vous arrivez là que vos forces vous quittent.
Mais comment faire dans ce cas ?
Ah, mon prince, un ancien grec a dit « Donnez-moi un levier adéquat et je soulèverai le monde. C'est à vous de voir. »
Le prince quitta le vieux de la bibliothèque, pensif. Il trouva sans peine l'emplacement du trésor. Tout correspondait à ce que le vieux avait dit. Lorsqu'il pénétra dans la grotte où était le trésor, il se sentit vieillir à vue d'œil. La peau sur ses mains commença à se plisser et il sentit des rides comme il se touchait le visage. Quand il arriva devant l'épée plantée dans la terre et le chevalier d'argile, il avait l'impression d'avoir 100 ans. Il tenta bien de retirer l'épée, mais sans succès. Alors il repensa à ce que le vieux de la bibliothèque lui avait dit. Il lui fallait un levier pour sortir l'épée. Il trouva un bâton et un rocher, puis cala une extrémité du bâton sous la garde de l'épée et en appuya sur le rocher. Il prit ensuite l'autre bout du bâton et appuya dessus. La grande épée commença à s'extraire. Le prince sentit ses forces revenir au fur et à mesure que l'épée sortait du sol. Lorsqu'elle fut complètement extraite, il avait retrouvé sa jeunesse et ses forces. Il n'eut alors aucun mal à se saisir de l'arme puis à se débarrasser du chevalier en argile qui éclata en 1000 morceaux. Le trésor était à lui. Il sourit, pensant au royaume qu'il allait pouvoir s'acheter, mais aussi à la nécessité de disposer d'une bibliothèque dans son futur château. Eh bien, voilà qui clôt notre émission qui sentait l'oxygène et l'humus aujourd'hui. Je vous donne rendez-vous la semaine prochaine pour un nouveau numéro de « Il était une fois en Cornouailles », 26 minutes en terre des fées rien que pour vous, avec la maison des contes et légendes de Cornouailles sur Radio Évasion. Kenavo, Avéchal.